Lors du conseil que nous avons eu lundi soir, nous avons médité quelques instants sur la parabole du drap neuf et des outres neuves. Et donc je vous propose de vous arrêter ce matin un peu plus longuement sur cet enseignement de Jésus, enseignement qui est tout de même déstabilisant pour ceux qui l'ont entendu de sa bouche, mais déstabilisant aussi pour nous. Et donc le récit qui nous est rapporté, je l'ai tiré de l'évangile de Luc, au chapitre 5, versets 36 à 39. Et nous allons donc le lire, sachant qu'il est aussi rapporté dans les deux autres évangiles synoptiques, Marc et Matthieu. Il leur dit aussi une parabole. Personne ne déchire d'un habit neuf un morceau pour le mettre à un vieil habit. Autrement, il déchire l'habit neuf. Et le morceau qu'il en a pris n'est pas assorti au vieux. Personne ne met de vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fait rompre les outres. Il se répand et les outres sont perdues. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neufs. Et personne, après avoir bu du vieux vin, ne veut du nouveau, car il dit « le vieux est bon ». Dans ce texte, nous avons trois phrases qui commencent par « personne ». Vous les retrouvez ici, mais j'imagine que plusieurs d'entre vous suivent ce passage dans des versions où il n'y a que deux personnes. Et je pense qu'il s'agit de la part du traducteur de rendre un peu plus compréhensible la dernière phrase de notre texte, la dernière parole de Jésus. Mais vraiment, j'ai choisi cette traduction-là parce que c'est vraiment ce que nous avons dans le texte original. Ces trois phrases sont structurées ainsi. C'est sans doute, comme je disais, pour rendre le texte un peu mieux compréhensible pour nous qui n'assistons pas à la scène. Mais le texte original dit par trois fois, trois phrases qui commencent ainsi, par « personne, personne ne fait ceci, personne ne fait cela ». Personne ne vieux ceci. Et je vous propose de vous pencher maintenant un peu sur les deux premiers, la parabole de l'habit neuf et de l'habit vieux, la parabole des outres neuves et des outres vieilles. Et voilà ce que donc nous allons commenter. La première parabole nous dit qu'une pièce de tissu neuve ne va pas sur un vieux vêtement. Et tout d'abord, il y a une question de couleur et d'assortiment. Voilà. Voilà ce qui peut se passer quand on met une pièce neuve sur un vieil habit. Donc la première parabole nous dit une pièce de tissu neuve ne va pas sur un vieux vêtement. Et tout d'abord, donc comme je disais, il y a une question de couleur. D'un côté, des couleurs éclatantes et de l'autre, des couleurs défraîchies. Et à cause des tensions répétées qu'a subi le tissu vieux, il a perdu toute élasticité. Et il est parvenu vraiment aux limites de sa vie. Il est usé, bien entendu, mais il a perdu toutes ses capacités d'extension. Et voilà ce qui se passe. Il est vraiment usé, celui-là. Hein, voilà. Voilà ce qui se passe avec un tissu usé. Il ne peut plus s'étirer. Si on essaye de le raccommoder avec du tissu vieux, comme ça a été fait ici par ma chère et tendre épouse, nous avons ici deux pièces de tissu, du même tissu, qui ont été raccommodées ensemble. Ça aurait dû tenir. Ce matin, ça va être compliqué. Voilà, mais bon, ça tient quand même un peu. J'ai un peu du mal à doser les formes, mais ça tient. Ouais, ça tient. Et puis, voilà ce qui se passe. Si on raccommode un tissu neuf avec un tissu vieux, le tissu neuf est élastique. Hein. Alors, évidemment, j'ai choisi un tissu particulièrement élastique. Mais, hop, ça craque. Là, Là, ça craque. Et qu'est-ce qui a craqué? Évidemment, le tissu vieux. Pourquoi? Parce qu'en fait, il s'est produit ce qu'on appelle une concentration de contraintes. Les contraintes se sont concentrées dans la zone de jonction au niveau de la couture. Et donc, dès que vous allez porter un tel habit, si vous vous asseyez, si vous vous penchez en avant, si vous vous contorsionnez, ça va craquer. Et à quel endroit? Évidemment, à l'endroit de la couture. Et donc, cette parabole nous dit que le neuf ne va pas sur le vieux. La deuxième parabole nous dit à peu près la même chose, en employant une autre image, qui est d'utiliser de vieilles outres pour mettre du vin nouveau. Et je me suis tout de même un peu renseigné sur ce que sont ces outres à vin et comment on les fabrique. Elles sont faites à partir de peau, la plupart du temps de peau de chèvre, mais aussi de brebis, de moutons, de veaux, selon le volume de l'outre qu'on veut obtenir. Et alors, on fait une coupure nette là, juste à la base de la tête, pour que le cou constitue un bec verseur. Selon les cultures, on va éventrer ou non l'animal. Mais si on les ventre, il faut savoir que ça va être beaucoup plus difficile de rendre l'autre étanche, hein, puisqu'il faudra la recoudre sur une bien plus grande longueur. Et si on n'éventre pas la bête, on va retourner la peau de manière à ce que l'intérieur vienne à l'extérieur et on va la mettre à sécher au soleil longuement, plusieurs mois, jusqu'à ce que toute trace de chair soit éliminée. Et évidemment, on aura coupé les pattes auparavant. Après l'avoir mise à sécher au soleil, on va la tremper à plusieurs reprises dans l'eau et cette opération de trempage a pour but de donner à la peau de l'élasticité, souplesse, élasticité. Et enfin, on coud les pattes, hein, ce qui reste les moignons de pattes, et tous les orifices. Et je n'ai pas tout à fait bien compris comment on fait au niveau du cou, hein, pour faire un bec verseur, mais peu importe, ce n'est pas tellement notre sujet. Et donc, entre nous, je trouve que c'est un mode de conservation du vin qui est bien meilleur que la bouteille, puisqu'une fois entamée, l'outre ne remplit pas d'air et qu'en fait, elle n'a pas grand-chose à envier à sa forme moderne que constitue ce qu'on appelle le bag-in-box. Et je trouve que là, il y a un clin d'œil assez intéressant entre l'ancien et le moderne dans notre réflexion. Au cours de sa vie, l'outre va subir plusieurs cycles de remplissage, vidage, lavage et trempage. Et ces cycles répétés se conjuguent au vieillissement naturel de la peau et vont progressivement altérer ses propriétés élastiques, au point qu'un beau jour, elle ne sera plus capable de supporter la pression provoquée par la fermentation du vin nouveau. Elle conviendra encore bien pour le vin vieux, mais il faudra constamment de nouvelles outres pour contenir le vin nouveau, sinon toutes les vendanges que nous allons faire seront perdues. Et Jésus met en avant que non seulement le vin sera perdu, mais les vieilles outres également, qui ont nécessité tant de travail, ce sont des heures et des heures de travail, des mois de patience, tant de travail et qui auraient pu encore contenir le vin vieux. Et donc ces deux paraboles s'accordent pour nous dire que le vieux ne s'accorde pas avec le neuf et le neuf ne s'accorde pas avec le vieux. La troisième fois qu'on a dans ce texte une phrase qui commence par « personne », c'est la dernière phrase lorsqu'il nous est dit que « personne, après avoir bu du vin vieux, ne veut du nouveau, car il dit « le vieux est bon ». C'est en cette phrase-là que dans certaines versions, notamment la version du semeur ou la seconde 21, mais la version du semeur donc, ne mentionne pas ce terme de personne, la phrase est structurée autrement. Et en fait, on est déjà un peu, elle bascule un petit peu dans l'interprétation par rapport au rapport exact des propos de Jésus. Personne, au dire de Jésus, ne veut du vin nouveau, car il dit « le vieux est bon ». Je pense qu'il nous manque un peu la gestuelle de l'instant où Jésus prononce cette parole, qui accompagne cette phrase. Une gestuelle pourrait être « et personne, après avoir vu du vin vieux, ne veut du nouveau, car il dit « le Dieu est bon ». Qui dit « le vieux est bon » C'est Jésus ? Non. C'est le fameux « personne » dont il est question, et c'est un regret que Jésus exprime ici, un regret que les gens se rabattent sur le vieux qui est bon. Et même s'il existe de très bons vins à boire jeunes, les amateurs préfèrent dans leur grande majorité les vins qui ont vieilli quelques années. Et l'image que Jésus prend n'est pas d'établir un jugement de valeur entre le vin vieux et les vins jeunes, mais il est bien évident que si nous voulons boire du bon vin dans quelques années, il va nous falloir dès maintenant préparer le vin jeune et le verser dans des outres neuves. Sinon, nous n'aurons rien du tout, ni vin vieux, ni vin jeune. N'oublions pas que ce qui est vieux aujourd'hui, ce que nous apprécions maintenant, a été un jour jeune et a nécessité du travail et de la maturation. Que ce qui ne marche pas si mal aujourd'hui, et peut-être en ronronnant, a subi à ses débuts le processus de fermentation, cette espèce d'ébullition désordonnée, à la fois prometteuse et inquiétante, porteuse d'espérance et de crainte de l'inconnu. Je ne peux pas m'empêcher ici de faire un parallèle avec notre création qui a été si tumultueuse à ses débuts, si violente même. Et on ne peut qu'être admiratif en la contemplant depuis notre siècle, en contemplant le dessein de Dieu, le dessein que Dieu avait pour elle, alors que ne semblait régner que le chaos à cette époque. Qu'est-ce que nous voulons ? C'est à ça que se résume notre passage. Qu'est-ce que nous voulons ? Tout dans le contexte de notre passage, aussi bien avant, vous reprenez les passages immédiatement avant, que ceux qui viennent immédiatement après, nous montrent que les Juifs sont confrontés à un choix. Quelques versets avant, et vous avez des interrogations qui montrent leur étonnement face au comportement de Jésus à l'égard des pécheurs. Quelques versets après, vous aurez la désapprobation et pour finir, l'accusation de ne pas obéir à la loi de Moïse. Entre les deux, Jésus leur dit « Vous avez eu la loi, moi je vous apporte la grâce. Je vous préviens, vous ne pourrez pas mélanger les deux, vous ne pourrez pas ménager la chèvre et le chou. Si vous voulez continuer de vivre sous la loi, vous ne bénéficierez pas de la grâce. Si vous voulez vivre par la grâce, vous aurez à remettre en question pas mal de choses qui sont devenues une partie de vous-même. Qu'est-ce que vous choisissez ?» Et la conclusion de Jésus, les gens disent « le vieux est bon », fait écho à la parole de Jean. Les siens ne l'ont pas reçu et pour la grande majorité ont choisi de rester dans ce qu'ils connaissaient. Ils ont dit « nous, on préfère le vin vieux ». On pourrait agrémenter cela de poncifs comme « un tien vaut mieux que deux, tu l'auras », cher Jean de La Fontaine, ou encore « c'est ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on gagne ». Je disais que Jésus n'établit pas de jugement de valeur entre le jeune et le vieux. Alors, en réalité, oui et non. La loi était juste et sainte, comme nous le fait remarquer Paul, et Jésus nous dit bien qu'il n'a pas aboli la loi en tant que telle, en tout cas pas comme pilier de sainteté et de justice. Mais personne n'est jamais parvenu à la vie éternelle par la seule observance de cette loi, par la seule observance des commandements, précisément parce que les uns et les autres sont tellement saints, les commandements sont tellement justes et bons qu'ils ne font que mettre en évidence nos manquements et notre injustice. La grâce que Jésus nous apporte lui est supérieure et supérieure à la loi, en ce sens qu'elle nous ouvre la porte que la loi nous a fermée, la porte de la vie éternelle. Quand on sait ce qu'il en coûte à Jésus de nous faire bénéficier de cette grâce, je crois qu'on peut bien comprendre sa déception, et sans doute le mot est mal choisi, j'y reviendrai, ou son dépit, lorsqu'il dit que la plupart préfèrent encore en rester au vin vieux de la loi, plutôt que d'investir dans cette grâce bouillonnante, pétillante, porteuse d'espérance, dans un vin excellent. Je disais aussi que Jésus nous demande de faire un choix. Mais attention, pas un choix entre deux chemins possibles, deux chemins qui mèneraient à Dieu, la loi et la grâce, qui mèneraient tous les deux au salut et que nous pourrions choisir à notre guise. Il est important de bien comprendre que la loi a été une étape, et une étape indispensable pour amener l'homme à prendre conscience de son état d'éloignement de Dieu. La grâce est venue, qui le libère de la malédiction que constituait cet éloignement. Le chemin de la grâce prend le relais là où il n'était plus possible pour l'homme de parvenir à la vie éternelle par le chemin de la loi. Et je ne parle pas seulement de la très exigeante loi juive, mais aussi de cette idée qu'en exigeant de nous-mêmes de bonnes actions, nous pouvons nous ouvrir les portes de la vie éternelle. Il en résulte que ceux qui choisissent de rester sous la loi, qu'elle soit juive ou qu'elle réponde à d'autres exigences, ceux qui choisissent la loi n'empruntent pas un autre chemin possible, mais s'arrêtent bel et bien en chemin. On peut mesurer, je pense, combien Jésus est éprouvé en faisant ce constat que tant d'hommes et de femmes s'arrêtent en chemin et s'en tiennent au bon vieux vin vieux alors que lui va donner sa vie pour eux. Lorsqu'on aborde cette question de l'ancien et du nouveau, on peut très vite se trouver dans la confrontation entre jeunes et vieux, entre modernistes et traditionalistes, entre progressistes et conservateurs. Et je me souviens très bien des débats politiques auxquels nous avons assisté au moment où le mandat présidentiel est passé de 7 à 5 ans. Un des arguments que j'ai entendu, c'est que 5 ans, c'est plus moderne. Ce à quoi un autre a répondu, dans ce cas-là, 4 ans, c'est encore plus moderne. Et vous avez ainsi, d'un côté, ceux qui voient la préservation de la société dans la perpétuation des institutions, tandis que d'autres veulent changer la société par la remise en question de ces mêmes institutions. Et en matière chrétienne, nous pouvons très facilement basculer dans ce mode de confrontation. Les uns vont s'en référer à des passages, comme on trouve dans les proverbes, « ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée ». D'autres s'approprieront plutôt des passages qui parlent de renouvellement, de cœur nouveau, d'esprit nouveau, comme on en trouve dans le livre d'Ézéchiel. Et il faut bien reconnaître que les deux choses cohabitent dans la Bible, et même dans l'Ancien Testament, au creuset de la loi. D'un côté, la sagesse et la connaissance de Dieu transmises par ceux qui nous ont précédés, et d'un autre côté, le besoin régulier de remettre les choses à plat pour un nouveau départ. Et je crois qu'il ne faut pas opposer les deux, mais il y a des moments charnières où les choses changent, où les temps mêmes changent. Avec Jésus, nous avons changé de temps. Et nous l'avons dit, la loi a fait place à la grâce. Avec la grâce est venu le temps de l'Église, très localisé tout d'abord, à Jérusalem, à l'endroit même où la loi avait son siège central, le Sanhédrin. Convoqués devant ce Sanhédrin qui voulait les faire taire, Pierre et Jean, qui ont vécu avec Jésus, disent « Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Et très rapidement, l'Église s'est étendue tout autour de la Palestine, vers la Syrie, dans l'actuelle Turquie, en Grèce et à Rome. Tout au long de ce développement, de nombreuses... Et je ne parle que de l'histoire relatée dans la Bible, bien sûr. Elle s'est étendue bien au-delà après. Tout au long de ce développement, de nombreuses tentatives ont été faites pour mettre le vin nouveau de la grâce dans les vieilles outres de la loi et de raccommoder ensemble la loi juive et la foi chrétienne, mais ça n'a pas tenu. L'Église a poursuivi son essor au cours des siècles et a traversé toutes sortes de périodes, des plus lumineuses aux plus sombres. Et il lui a fallu à de nombreuses reprises se remettre en question et chaque fois c'était une confrontation entre les tenants de la continuité et ceux de la réformation. Parfois, sous l'influence de passions exacerbées, il y a eu des abus de toutes sortes. Il y a eu des périodes où il était compliqué, voire dangereux, de mener la vie d'un croyant authentique, parfois au sein même de l'Église. En d'autres occasions, des déviations doctrinales sévères tordaient littéralement le sens des Écritures. Mais on retrouve toujours, ça et là, une régénérescence de foi et de ferveur profonde qui se développait au sein même des Églises et qui ont produit des réveils de toutes sortes, dans des sociétés de toutes sortes très différentes. Il y a eu des moments où des chrétiens se sont rassemblés et unis pour dire « Nous ne pouvons pas rester seuls entre nous. Nous ne pouvons pas ne pas faire connaître aux hommes ce Jésus qui nous est si cher. » Et ils ont trouvé de nouvelles méthodes pour parler à leurs contemporains parce que leur vieux tissu usé se déchirait au contact du monde extérieur qu'ils avaient fui jusque-là en croyant s'en protéger. Ils se sont fait de nouvelles outres. Attention, il ne s'agit pas de dire que les vieilles outres étaient mauvaises. Le vin vieux était nouveau à un moment. Mais à terme, nos vieilles outres sont condamnées, et plutôt que nous le croyons encore, si nous les remplissons de vin nouveau, et là nous perdons tout, les outres et le vin. Et d'ailleurs, si Jésus regrette que les hommes choisissent le vin vieux, ce n'est pas parce qu'il est mauvais, mais parce qu'il est déjà vieux et n'a pas d'autre avenir que d'être bu rapidement. Seulement, il nous faut penser à mettre à fermenter le vin jeune qui sera bon à boire demain. Et pour cela, il nous faut de nouvelles outres pour contenir toute cette effervescence de la fermentation qui ne manquera pas de se produire si nous vendangeons de nouveau. De quoi seront faites ces nouvelles outres? Allons-nous les trouver prêtes à l'emploi? Ou devons-nous les fabriquer nous-mêmes à partir de produits semi-ouvrés, hein, comme on le faisait avec de la peau de chèvre tannée? Au terme de cette année que nous avons passée sous notre mot d'ordre « ouvrier avec Dieu », nous sommes peut-être interrogés sur quel métier nous pouvons avoir en tant qu'ouvriers avec Dieu, chacun de notre côté. Et peut-être pouvons-nous imaginer maintenant, avec cette idée des outres, que les tanneurs, les corroyeurs, les couseurs de cuir deviennent des métiers très prisés parmi nous. Et je laisse à chacun le soin de faire le parallèle du métier qu'il peut avoir en tant qu'ouvrier avec Dieu dans la confection de nos nouvelles outres. Peut-être devrons-nous aussi tuer la chèvre et vider la chèvre. Peut-être nous faudra-t-il même élever la chèvre. Que Dieu nous conduise dans ses voies. Mais dans cette image, je ne peux pas m'empêcher de penser à Jacob en train d'élever ses brebis pour son beau-frère, un peu ingrat, pendant 7 ans, en vue d'obtenir la main de Rachel, et qu'il aimait tellement que ces 7 années lui ont semblé être quelques jours. Si nous nous laissons gagner par cette passion de faire connaître Jésus à nos contemporains, si nous nous laissons remplir de l'amour de Jésus, désireux que les hommes choisissent le vin nouveau, plein de promesses, alors nous ne trouverons pas pénible ce travail, nous ne trouverons pas trop long le temps que nous pourrons y consacrer. Rappelons-nous aussi que la fermentation se fait à notre insu. Notre rôle à nous, c'est de nous procurer les outres et de mettre le vin dedans, le vin nouveau. La fermentation qui se produit ensuite, c'est un vrai cadeau du Seigneur. Lors des entretiens d'embauche, un de mes anciens employeurs disait « Que voulez-vous, beaucoup de présent et peu d'avenir ou peu de présent et beaucoup d'avenir ?» Et à travers cette parabole, Jésus nous pose la même question. Que voulez-vous? Faire du neuf avec du vieux? Vos vieilles outres ne tiendront pas. Elles sont comme une monnaie ancienne qui n'a plus cours. Elles ont été utiles et représentent une vraie valeur en soi pour qui sait les reconnaître, mais personne ne vous donnera ne serait-ce qu'une baguette de pain en échange de cette monnaie. Malgré toutes les difficultés que nous avons eues pour passer du franc à l'euro, difficultés qui ont été grandes, et plus on était âgé, plus c'était difficile, il ne viendrait à personne l'idée de payer en francs en 2015. C'est une monnaie qui n'a plus cours. Qu'est-ce que nous voulons? Et peut-être tout d'abord, qu'est-ce que nous ne voulons pas? Nous sommes dans un monde où un gadget en chasse un autre. Et est-ce cela que nous voulons, du neuf pour avoir du neuf, du neuf tout le temps? C'est bien cela qu'on nous pousse, c'est assez frappant, hein, on nous pousse à rouler dans une voiture tout le temps neuve. Je parlais de la confrontation d'idées au moment du passage du quinquennat, et vous avez bien compris que choisir le quinquennat parce que c'est moderne, ce n'est pas en soi un argument. À moins que ça signifie adapter. Adapter, dans le cas du quinquennat, à gouverner et à faire face aux défis du monde moderne. Faire du neuf pour faire du neuf, non, mais faire du neuf pour s'adapter, ah, peut-être. Si à travers cette parabole, Jésus nous interroge sur ce que nous voulons, il nous fait aussi clairement comprendre ce qu'il aimerait, lui, que nous choisissions. C'est que nous décidions de remplir nos outres de vin nouveau. Et il nous indique même comment s'y prendre. Pour un vin nouveau, utilisez des outres neuves. Changez tout, remettez tout à plat. S'il s'est montré consterné de voir les Juifs de son temps littéralement stériliser la loi, est-ce que c'est pour que les chrétiens qui portent son nom se mettent à stériliser la grâce? La fermentation, c'est tout le contraire de la stérilisation. D'accord? Avec les stérilisations, pas d'aventure. Risque proche de zéro, pas de microbes, pas de bactéries, pas de germes, pas de corps étrangers. Mais à l'arrivée, on n'a que du jus de raisin. Ouvrez le bocal dans 5 ans et ce sera le même, peut-être même un peu passé. La fermentation, elle, a quelque chose d'inquiétant. Ça bouillonne, il y a des bulles, de la pression. Mais à l'arrivée, on a du vin qui, en plus, se bonifie avec le temps. Mettons la grâce à fermenter. Demandons à Dieu de nous révéler ses nouvelles stratégies pour notre temps. De nous révéler, même de nous donner les outres neuves qu'il convient d'employer aujourd'hui pour le vin que nous mettons à fermenter aujourd'hui. S'il n'est pas question de dénaturer le vin, en édulcorant le message de l'Évangile, nous demeurons avides du vin nouveau que produit l'Évangile de la grâce en fermentation. Je vous ai dit que je reviendrai sur la question de la déception de Jésus face aux hommes qui choisissaient la loi plutôt que la grâce. Déception, le mot est sans doute mal choisi, puisque Jésus, il nous le dit lui-même, savait d'avance que tous les hommes qu'il désirait sauver ne saisiraient pas cette grâce. On ne peut être déçu que lorsque les faits ne vont pas à l'encontre de nos espoirs. Or, Jésus est Dieu, il faut bien le répéter ici, Jésus est Dieu, et à ce titre, il sait bien de quoi nos cœurs sont faits, pour ne pas entretenir de vains espoirs et ne pas être surpris. Ben, vous savez quoi? Malgré que Jésus savait que si peu d'hommes saisiraient cette grâce qui allait tant lui coûter, que tant d'entre eux resteraient à siroter un vieux vin qui finirait par s'épuiser, il a quand même accompli ce sacrifice qui nous sauve aujourd'hui. Nous, rassemblés, et tous les croyants qui ont choisi le vin nouveau de la grâce. Pour les quelques-uns qui étaient autour de lui ce jour-là, Jésus n'a pas renoncé. Pour tous ceux qui croiraient, même peu nombreux au regard de toute la population de la terre au cours des siècles, Jésus n'a pas renoncé. Pour vous tous qui croyez, pour moi qui crois avec vous, et pour toi qui te demande peut-être si tu peux croire en lui aujourd'hui, Jésus n'a pas renoncé à offrir sa vie en sacrifice. À quoi bon ce sacrifice? D'autres ne sont-ils pas morts pour de bonnes causes, peut-être même crucifiés pour de bonnes causes? Sans doute que si, mais aucun d'entre eux n'a pu obtenir le pardon de Dieu pour tous les hommes par leur sacrifice, pas même pour eux-mêmes. Seul Jésus, pleinement homme et pleinement Dieu, a pu présenter devant le Père un sacrifice parfait parce qu'il n'a commis aucun péché du temps de son humanité, bien qu'il ait été tenté comme chacun d'entre nous. Je lis dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 2, à partir du verset 10. En effet, Dieu qui a créé tout ce qui existe et pour qui sont toutes choses, voulait conduire beaucoup de fils à participer à sa gloire. Il lui convenait pour cela d'élever à la perfection par ses souffrances celui qui devait leur ouvrir le chemin du salut. Car Jésus purifie les hommes de leurs péchés, et ceux qui sont ainsi purifiés partagent la même humanité. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler ses frères. Lorsqu'il dit à Dieu, « Je proclamerai à mes frères quel Dieu tu es, je te louerai dans la grande assemblée. » Il dit aussi, « Pour moi, je mettrai toute ma confiance en Dieu, et encore, me voici avec les enfants que Dieu m'a donnés. » Ainsi donc, puisque ses enfants sont unis par la chair et le sang, lui aussi de la même façon a partagé leurs conditions. Il l'a fait pour réduire à l'impuissance, par la mort, celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et pour délivrer tous ceux qui étaient réduits à l'esclavage, leur vie durant, par la peur de la mort. Et il parle bien sûr de l'esclavage de la loi. Car ce n'est évidemment pas pour porter secours à des anges qu'il est venu. Non, c'est à la descendance d'Abraham qu'il vient en aide. descendance d'Abraham, premièrement les Juifs, mais aussi tous ceux qui croiraient, puisqu'Abraham est considéré comme le père de tous les croyants. Voilà pourquoi il devait être rendu à tous égards semblable à ses frères, donc devenir homme tout en restant Dieu, afin de devenir un grand prêtre, plein de bonté et digne de confiance, dans le domaine des relations de l'homme avec Dieu, en vue d'expier les péchés de son peuple. Car puisqu'il a été lui-même éprouvé ou tenté dans ce qu'il a souffert, il peut soutenir ceux qui sont éprouvés ou tentés.